chers amis, chers camarades. Les massacres perpétrés à Paris par des terroristes ont profondément modifié la situation politique et la perception que nous pouvions avoir jusque-là du monde dans lequel nous vivons. Pour faire tant de mal en quelques minutes, en tirant sur les spectateurs d'un concert ou sur des hommes et des femmes attablés à la terrasse d'un café, il ne faut plus avoir la moindre parcelle d'humanité. Tout dans ces attentats en provoquer en chacun de nous un sentiment d'horreur. Nous avons été atteints, et pour beaucoup désespérés, parce que ces actes contiennent de nihilisme profond, de déni de la vie et de l'humanité élémentaire qui nous habite tous. Quelles que soient les justifications que ces meurtriers se donnent, leurs actes sont l'œuvre de barbares, d'ennemis de l'humanité. Ces djihadistes qui agissent au nom d'une religion n'ont ni religion ni principe. Ce sont des petits voyous, pour la plupart bien français, dont la seule idéologie, le seul drapeau, est le sentiment de puissance qu'ils retirent à terroriser les faibles. C'est à de tels individus que fait appel une organisation comme Daesh, à des hommes aux sentiments les plus vils, aux instincts les plus bas. Mais si Daesh a pu offrir à ces monstres armes et justifications, ce n'est pas Daesh qui les a fait émerger. Ni ici, où ils sont les fruits pourris d'une misère morale qui se développe sur le terreau du chômage de masse, ni au Moyen-Orient, où ce sont les guerres des bourgeoisies occidentales pour se partager la région qui crée le terrain propice à leur développement. Ces monstres, ils ne sont pas sortis de rien. La guerre contre le terrorisme ne vient pas de commencer. Elle dure depuis 14 ans, depuis les attentats du World Trade Center. Et force est de constater que les dirigeants des grandes puissances échouent à faire reculer le terrorisme. Avant de frapper Paris, c'est la Turquie, le Liban, l'Égypte, la Tunisie que les terroristes avaient ensanglantés. Et il y a une dizaine de jours, ils ont frappé au Mali, en plein cœur de Bamako, faisant 27 morts, alors que l'on nous expliquait que les terroristes avaient été vaincus dans ce pays. Puis, une fois encore, ce fut le tour de la Tunisie. Aujourd'hui, en Afghanistan, les talibans sont de retour. L'Irak et la Libye sont en proie au chaos. Et cela fait maintenant 4 ans que la Syrie est ravagée par la guerre. Cette fois, les dirigeants impérialistes assurent qu'ils s'y prendront mieux. Comment ? Eux-mêmes ne le savent pas. Ils sont capables de faire aujourd'hui l'inverse de ce qu'ils disaient ou faisaient hier, au point d'être prêts à s'appuyer sur le régime de Bachar el-Assad, un assassin aux 300 000 victimes. Ils vendent des armes au Qatar et à l'Arabie Saoudite, qui financent et forment des djihadistes. Ils sont alliés à la Turquie, qui a laissé Daesh prospérer et qui fait la guerre aux Kurdes, ces mêmes Kurdes, sur lesquels les Occidentaux comptent aujourd'hui pour intervenir au sol. Daesh est né de la guerre menée en Irak par les États-Unis et le Royaume-Uni. Quel autre monstre sortira de celle-ci ? Nous ne le savons pas. Mais nous pouvons être sûrs que la guerre des grandes puissances n'éradiquera pas le terrorisme, elle l'alimentera une fois de plus. Aussi forte qu'elle soit, les grandes puissances sont incapables d'apporter ne serait-ce qu'un début de solution. Pourquoi cela ? Eh bien, parce qu'elles n'ont rien à offrir aux millions d'hommes et de femmes qui, dans ces pays, vivent dans la misère et dans la soumission à des régimes féroces. Les grandes puissances ont comme seule politique celle de défendre leurs intérêts dans ce Moyen-Orient riche en pétrole et qui, depuis plus d'un siècle, est le théâtre de leur rivalité et de leur avidité. L'exploitation et l'oppression impérialiste se fait via des régimes mis en place par les grandes puissances. Toute la variété de ces régimes dictatoriaux existe ou a existé au Moyen-Orient. Des plus moyenâgeux, voilant et enfermant les femmes, maintenant le système de l'esclavage, au plus guerrier, avec des ethnies entières surarmées et transformées en gardes rapprochées du dictateur, comme c'était le cas sous Saddam Hussein en Irak, sous Kadhafi en Libye ou Bachar el-Assad en Syrie. Toutes ces dictatures ont transformé une minorité en bourreau de leur peuple, mais ont fini par être lâchées par leurs maîtres occidentaux dès lors qu'elles commençaient à revendiquer pour elles-mêmes ou qu'elles avaient perdu leur capacité de maintenir la grande majorité de la population sous leurs joues. Ces régimes ont pu exister et survivre tant qu'ils servaient les intérêts de l'impérialisme. Mais dès qu'ils n'ont plus été aussi fiables ou aussi efficaces, les Occidentaux ont fini par lâcher des dictatures qui les avaient auparavant si bien servis. Et bien que cela paraisse paradoxal, ce sont les cadres de ces dictatures déchues qui ont pris la tête de l'opposition aux impérialistes. Voilà pourquoi on peut dire qu'il y a bien peu de chances que les impérialistes réussissent dans leur guerre contre le terrorisme. Il faut en être conscient. Le principal danger ne vient pas de l'extérieur, d'Afrique ou du Moyen-Orient. Il ne vient pas de telle ou telle religion, de telle ou telle communauté. Il vient de l'intérieur de ce système économique qui engendre chômage, inégalité, injustice, délinquance et guerre. Un monde où 67 familles possèdent l'équivalent de ce qu'ont pour survivre 3,5 milliards d'êtres humains. Un monde où l'Afrique et le Moyen-Orient sont des Eldorado pour les capitalistes, mais des enfers pour leur population, ne peut qu'engendrer des monstruosités. Le capitalisme est en faillite, au bout du rouleau. Le règne de la bourgeoisie, c'est non seulement l'exploitation et la dictature des actionnaires sur la société, mais c'est aussi cette barbarie qui se répand partout et qui atteint maintenant Paris et le cœur de l'Europe. Dans notre pays même, en se lançant dans une politique de soi-disant défense de la population, Hollande a aligné les mesures sécuritaires. Déchéance de nationalité, expulsion, contrôle multiplié. Vis-à-vis des terroristes, ces mesures sécuritaires s'apparentent à des gesticulations. Mais elles ont une autre finalité, celle de faire taire les voix dissidentes. Les cérémonies solennelles, la réunion du Congrès à Versailles, l'établissement de l'état d'urgence, la révision de la Constitution, les petits drapeaux aux fenêtres, tout est fait pour dramatiser l'atmosphère, créer un climat de peur et nous enfoncer dans le crâne que nous sommes entrés en guerre. L'unité nationale consiste en réalité à vouloir étouffer toute véritable opposition. Les terroristes l'affrontèrent à coups de Kalachnikov, les dirigeants des pays riches en instrumentalisant l'émotion et les peurs des peuples. Au nom de leur état d'urgence, le gouvernement a annulé des manifestations, des meetings, et il a interdit la manifestation prévue en soutien des migrants. Par la surenchère des mesures sécuritaires, par la fermeture des frontières, il désigne des boucs émissaires. Ce sont les travailleurs étrangers, les musulmans, les migrants, pourtant victimes à la fois des terroristes et des bombardements. Ce sont eux qu'on nous désigne aujourd'hui comme une menace pour nous, pour notre sécurité. Toutes ces mesures qui pointent du doigt les étrangers et les immigrés ne peuvent qu'encourager la méfiance, la suspicion, le repli sur soi, l'intolérance. Elles vont au bout du compte dans le sens de ce que recherchent les terroristes eux-mêmes. Elles créent des divisions, elles confortent les racistes, elles jettent ceux qui ont peur dans des bras des plus nationalistes. Le gouvernement espère tirer profit de son nouveau cours sécuritaire, mais c'est le FN, le Front National, qui en profitera le plus. Ces mesures ne seront pas seulement inefficaces, elles vont aggraver le climat nauséabond qui préexistait aux attentats, où déjà il y avait de petits groupes qui attaquaient les migrants, où les identitaires d'extrême droite s'agitaient, y compris contre l'extrême gauche. Eh bien, il va falloir s'opposer à tout ce poison. Va-t-on laisser le Front National, les Républicains et le Parti Socialiste nous enfoncer dans ce climat guerrier et dans cette méfiance généralisée? Va-t-on laisser dire qu'il faut rejeter des migrants au prétexte que des terroristes peuvent s'infiltrer dans leur rang? Non, il ne le faut pas. Ces idées prennent d'autant plus facilement qu'en face, il n'y a pas assez de monde pour s'y opposer. Et ce n'est pas en faisant des leçons de morale républicaine que nous les combattrons. C'est en nous adressant aux travailleurs, au nom de leurs intérêts. Il est vital que nous, les travailleurs, nous nous sentions une classe unie par nos intérêts, et cela, quelle que soit notre origine. Il est vital que nous retrouvions une conscience de classe, une conscience de nos intérêts communs, par-delà notre diversité. On nous rabâche que notre identité dépend de notre origine, de notre nationalité ou de notre confession. Mais un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés. Notre condition de travailleur exploité nous unit, au-delà de nos différences. Alors, il faut serrer les rangs, rejeter ceux qui veulent dresser un mur entre nous et affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, la communauté des travailleurs. Nous sommes une classe sociale qui n'a rien de commun avec ceux qui nous appellent aujourd'hui à l'Union nationale contre le terrorisme. Car ce sont ces mêmes dirigeants qui nous portent les coups ici en France, en détruisant les droits des travailleurs, en permettant aux patrons de licencier sans entrave et sans pénalité, en laissant le chômage battre record sur record. Voilà pourquoi il faut affirmer que nous ne sommes pas dans le même camp que les bourgeois et leurs représentants. Nous sommes dans le camp opposé, celui des travailleurs. Le camp des travailleurs défend la solidarité entre les exploités, quelles que soient leurs origines. Le camp des travailleurs refuse tout ce qui pourrait le diviser. Le camp des travailleurs a toujours porté des valeurs propres aux exploités. Alors que la bourgeoisie a toujours prôné l'individualisme, la concurrence et le chacun pour soi. Les travailleurs ont compris qu'ils avaient besoin de solidarité, d'organisation et de dévouement, non seulement pour se battre contre l'exploitation, mais tout simplement pour vivre. En se développant, le mouvement ouvrier a créé ses propres valeurs. Tout en menant le combat quotidien contre le travail des enfants, pour la journée de travail de 8 heures, les militants défendaient l'idée de l'émancipation sociale, du progrès de toute la société, d'un monde libéré des superstitions et des préjugés. L'internationalisme a toujours fait partie du capital du mouvement ouvrier. C'est en intégrant dans leur rang tous les travailleurs, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur langue, leur religion, leur couleur de peau, que les travailleurs ont gagné leur meilleur combat. Ce faisant, ils ont fait reculer les idées racistes et xénophobes dans toute la société. Et l'honneur du mouvement ouvrier était de militer contre toutes les formes d'oppression, pour l'émancipation des femmes, contre l'esclavage, pour la libération des peuples colonisés, contre l'apartheid. Ce capital a été peu à peu dilapidé par le Parti communiste français, qui en devenant stalinien est aussi devenu nationaliste, remplaçant le drapeau rouge par le drapeau bleu-blanc-rouge et l'international par la marseillaise. Les militants et le milieu ouvrier qui l'influençaient ont été nourris aux diatribes de marché contre une Europe accusée de piétiner la souveraineté de la France ou aux appels pour le produire français. Et avec son obsession anti-allemande et sa propagande cocardière, un Mélenchon remet une louche. Mais aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui prospère sur ce terrain. Alors, sans attendre des luttes qui feront de nos idées une force capable d'ébranler la société bourgeoise, il faut se battre à nouveau pour diffuser les idées internationalistes et les valeurs propres au mouvement ouvrier parmi les travailleurs. Les idées de la lutte de classe, seule boussole pour indiquer les intérêts des travailleurs. Loin des calculs électoraux, il faut montrer aux nôtres, y compris à ceux qui s'égarent en regardant vers le Front National, qu'il y a encore dans la classe ouvrière des femmes et des hommes qui connaissent la seule voie pour lutter contre les injustices et les inégalités de cette société. S'en prendre à la bourgeoisie, faire reculer l'exploitation, avec comme ambition de la supprimer totalement. Les idées réactionnaires fleurissent sur le terreau d'un capitalisme qui dégénère. Crise économique, crise politique, crise écologique, crise migratoire. Les dirigeants les plus puissants de la planète ne maîtrisent plus rien. Cela saute aux yeux en matière internationale, j'en ai déjà parlé. Mais regardez comment même sur la question de l'écologie et du réchauffement climatique, ils sont incapables de trouver de véritables solutions. Dans le cadre de la COP21, ils vont tous s'engager solennellement pour agir. Mais ils ne prendront aucun engagement contraignant, ni pour leur pays, ni pour les grands groupes industriels qui sont les premiers pollueurs de la planète. Des trusts pour qui l'écologie, c'est bon pour se faire de la pub et pour s'asseoir dessus, comme le montre la fraude à grande échelle de Volkswagen. Les dirigeants de la planète, les dirigeants des grands groupes capitalistes savent tout du problème et des conséquences catastrophiques pour des millions de femmes et d'hommes. Mais ils ne bougeront le petit doigt que si cela peut leur rapporter de l'argent, que s'ils peuvent faire du business avec l'écologie. Eh bien, il est urgent de renverser ce système complètement fou. Si nous faisons le choix de défendre une politique qui se place exclusivement sur le terrain de la classe ouvrière, c'est qu'elle est la seule classe qui peut s'attaquer à la racine même des problèmes, à l'organisation capitaliste de la société. Mais pour en être capable, elle doit non seulement retrouver le chemin de la combativité, mais aussi de la conscience. Faire en sorte que cette conscience de classe redevienne la boussole des travailleurs et le fond de notre politique, c'est notre raison d'être. Et c'est tout le sens de notre participation aux élections, que les travailleurs s'affirment de nouveau comme une force politique. Cela peut bien sûr prendre d'autres voies que celles des élections. Une révolte des travailleurs pourrait faire mûrir les consciences à une toute autre échelle et d'une toute autre façon. Mais il faut utiliser toutes les possibilités qui se présentent à nous pour progresser dans cette voie. Et là, dans quelques jours, il faut s'exprimer dans les élections régionales. Dans le contexte d'aujourd'hui, notre participation aux élections peut paraître dérisoire. Beaucoup, avant même les attentats, se désintéressaient de cette élection. Cela fait des années, des décennies même, que le monde du travail vit et s'enfonce dans la précarité. Et il y en a eu des élections. Il y en a eu des alternances et des occasions pour que les travailleurs puissent vérifier que les élections ne changent pas leur sort. Aujourd'hui, avec les attentats, le sentiment d'être démuni face à une société qui s'enfonce toujours plus dans la barbarie ne peut que renforcer l'aspect anecdotique d'un tel scrutin et cette idée que tout ça, ça ne sert à rien. Mais s'il n'y a pas à s'en étonner, il y a à convaincre. Il y a à convaincre que voter pour les listes lutte ouvrière a une utilité, celle de montrer qu'il y a des travailleurs qui ont compris que les grands partis ne représentent pas leur camp. Et surtout, voter pour les listes lutte ouvrière a pour utilité celle de rassembler politiquement les travailleurs conscients d'avoir des intérêts de classe à défendre. Oh, le problème n'est pas d'être entendu de ceux qui gouvernent, car ces gens-là se moquent de ce que les électeurs peuvent exprimer. Mais il s'agit d'être entendu du monde du travail. Il s'agit de montrer aux nôtres qu'une fraction ne se résigne pas, et surtout qu'il y a un camp auquel ils peuvent se rallier. En déchirant ou en brûlant leur carte d'électeur, en affirmant qu'ils ne marchent plus dans tout ce cirque, certains croient pouvoir se venger des partis qui les ont trahis et exprimer leur opposition radicale au système. Ils se trompent, car en s'abstenant, ils se taisent. Et pire, ils donnent du poids à tous ceux qui voteront pour le Parti Socialiste, pour la droite ou pour le Front National. Et au bout du compte, ces abstentionnistes seront récupérés par les vainqueurs. Oui, la réalité, c'est que pour changer la vie des travailleurs, il faudra inverser le rapport de force entre les travailleurs et la bourgeoisie. Et cela, seules les luttes collectives peuvent le faire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que la bourgeoisie et tous les partis qui roulent pour elle poussent leur avantage. Mais à tirer trop sur la corde, comme ils le font au Moyen-Orient, comme ils le font même dans tous les pays de la planète, ils finiront par faire exploser les cadres. Nous espérons alors que la classe ouvrière consciente saura entraîner le reste de la population pour révolutionner toute la société. C'est la seule voie pour faire reculer la barbarie qui nous submerge et redonner espoir à toute l'humanité. Dans ces élections, voter pour les listes de lutte ouvrière, c'est voter pour le camp des travailleurs. Mais ça veut dire aussi voter contre la barbarie, voter contre cet impérialisme qui organise la crise et le chômage en Europe et met la planète à feu et à sang. Cela veut dire voter contre cette bourgeoisie qui organise le chômage, impose des bas salaires et l'austérité. Lorsque la pourriture du capitalisme ressort par tous les pores de la société, il faut être là et dire que cela ne passera pas par nous. Lorsque les intellectuels cèdent au conformisme, aux préjugés, lorsqu'ils se laissent emporter par la vague nationaliste identitaire comme aujourd'hui, lorsque les voix des progressistes s'éteignent les unes après les autres, il est vital pour l'avenir d'affirmer nos idées révolutionnaires, celles du communisme. Alors, je vous appelle à faire entendre le camp des travailleurs, à faire entendre les intérêts immédiats des travailleurs. L'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires et des pensions, le contrôle des comptes des groupes capitalistes, comme Charlotte l'a rappelé. Mais aussi à faire entendre ce camp, profondément convaincu que l'avenir ne peut pas être ce monde hérissé de frontières et parsemé d'une dictature féroce. Ce monde où une minorité richissime emprisonne l'essentiel de l'humanité dans un océan de misère et de souffrance. Alors, il reste quelques jours avant le vote. Aidez-nous à faire entendre la voix de notre camp. Votez et faites voter pour la liste lutte ouvrière. Faire entendre le camp des travailleurs.